Martel.com. Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition. Nous sommes à Nantes où se tiennent les Géopolitiques de Nantes, co-organisées par l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. En 2013, il y a donc très exactement 5 ans, le président chinois lançait le projet One Belt, One Road en invoquant comme source d'inspiration les anciennes routes de la soie. Renommée depuis Belt and Road Initiative, la stratégie est ambitieuse. Sur le plan financier d'abord, 1000 milliards de dollars d'ici 2049 pour une association de 70 pays, voire davantage. Un véritable défi, moins technique que géopolitique. Il s'agit de développer des lignes de communication routière, ferroviaire et maritime pour relier la Chine à l'Europe et à l'Afrique orientale. Sur le plan terrestre, l'Asie centrale et le Caucase du Sud ex-soviétique ainsi que l'Europe orientale, mais aussi l'Iran et la Turquie sont directement concernés. Sur le plan maritime, la Corne de l'Afrique et l'Afrique orientale constituent également un objectif d'importance. À quelle logique répond ce projet considéré comme le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale? Prestige, développement économique, outil de domination chinoise à l'étranger, volonté d'expansion sûrement, qui n'est pas et ne sera pas sans rencontrer des obstacles, comme nous allons le voir avec nos invités. Angélique Pahl, chercheuse énergie et matières premières à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, bonjour.
Bonjour.
Jean-Joseph Boileau, spécialiste de l'Asie, conseiller pays émergents au Club CEPI, chercheur associé à l'IRIS, auteur de plusieurs ouvrages dont Chine d'Afrique, la Chine, l'Inde et l'Afrique feront le monde de demain aux éditions Edil Jacob. Bonjour.
Bonjour.
Emmanuel H., professeur et directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste en prospective, auteur de nombreux articles. Bonjour.
Bonjour.
Et Alain Frachon, éditorialiste de politique étrangère au journal Le Monde. Bonjour.
Bonjour Marie-France.
Alors, ce projet, cette route de la soie, quel est l'état d'avancement aujourd'hui? Quel état des lieux peut-on faire de cette initiative chinoise qui souhaite commencer?
Écoutez, je vais me lancer.
Emmanuel H.
On a en face de nous un projet de grande artère économique qui souhaite venir irriguer l'Europe, qui souhaite venir irriguer l'Asie centrale et le monde, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que la route de la soie, ce sont des routes maritimes également et des routes terrestres. Si je peux donner quelques chiffres, à l'heure actuelle, c'est environ 68 pays, c'est 55% du PIB mondial, c'est 70% de la population mondiale qui devrait être touchée par ce projet, soit environ 4,5 milliards d'habitants, et c'est 75% des réserves énergétiques. Ce sont des corridors économiques, c'est un plan qui est très polymorphe, hein, c'est-à-dire que vous allez y retrouver des relations commerciales, des relations financières, un afflux de main-d'œuvre, de compétences, des infrastructures bien évidemment, et puis la donnée, de la donnée aussi, de la data. Alors c'est vrai que ce projet, il peut susciter des craintes avec un sentiment d'asymétrie économique, mais encore une fois, je pense qu'il faut le regarder très calmement, sans sinophobie, sans sinolatrie. Il faut regarder ce qui se passe. Alors certes, on a très peu de données, j'allais dire détaillées, sur les projets, mais ils sont nombreux. Ils sont estimés à environ, vous avez parlé de 1000 milliards de dollars, oui, les estimations vont de 900 milliards de dollars à près de 4000 milliards de dollars.
Donc ça fait un grand différentiel. Projet d'infrastructure, vous l'avez dit, Emmanuel H., et en termes d'énergie, Angélique Pahl, beaucoup de choses également.
Oui, en fait, la Chine est en train de changer de dynamique, c'est-à-dire qu'on était sur une dynamique d'industrialisation, de sortie de la pauvreté d'une grande partie de la population. 800 millions de personnes sur les 35 dernières années. Ça, c'était une dynamique liée à l'utilisation du charbon. Et depuis quelque temps, la Chine change de dynamique avec une tertiarisation de son économie, l'émergence déjà bien avancée d'une classe moyenne avec une conscience environnementale. Et ça plaide pour l'utilisation d'autres types d'énergie, donc électricité et gaz. Et donc la Chine a besoin de s'approvisionner à la fois en gaz et en électricité et de construire les infrastructures qui vont avec.
Alors, ce que l'on voit, est-ce que l'on remarque, Jean-Joseph Boileau, c'est un projet qui est sans cesse en évolution, évidemment. L'objectif, c'est 2049 pour le 100e anniversaire de la création de la République populaire de Chine. Mais donc, il évolue, ce projet. On parle maintenant de route de la soie du Pacifique, route de la soie sur glace qui traverserait l'océan Arctique, route de la soie digitale à travers le cyberespace et même route de la soie de l'espace.
Oui, il faut faire attention à pas tomber dans les tropismes du maoïsme des années 60 où tout le monde répétait de petits livres rouges. Je recommande d'avoir beaucoup de réserves, de regarder exactement ce qui se passe, ce qui se fait. Pas croire que la Chine est au centre du monde, parce que c'est pas du tout le cas. L'histoire des routes de la soie, c'est l'histoire justement d'un centre continental du monde dans lequel les Chinois n'ont jamais joué un rôle essentiel. C'est hormis peut-être la période de l'Empire des Han, moins deuxième siècle, ça s'est terminé au deuxième siècle après Jésus-Christ. Il y a en réalité une fenêtre importante qui va durer un certain temps et qui, il faut regarder en dynamique, conclut effectivement en gros en 2049 lorsque la Chine sera probablement la vieille puissance qui n'aura plus cette capacité pour des raisons démographiques mais aussi politiques très probablement d'être ce géant qu'elle souhaite être, mais elle va être le géant d'elle-même. Elle prépare aujourd'hui, et ça c'est important, hein, elle prépare cette vision 2049 d'une Chine posée. Ce modèle chinois proposé rencontre effectivement l'adhésion des peuples, des pays à qui elle a proposé ce plan. Pourquoi ? Parce que c'est une win-win, c'est un jeu gagnant-gagnant. Elle propose tout bêtement de se coupler sur le premier producteur mondial de produits de consommation bon marché et deuxièmement, les plus grandes entreprises mondiales de production d'infrastructures bon marché, le ferroviaire, etc. Et en même temps, elle a besoin des matières premières, c'est un élément clé sur cette route de la soie. Ça, c'est la composante économique. Est-ce que ce plan peut marcher ? Oui, parce qu'il y a une demande de part et d'autre. Combien de temps ça va durer ? Au moins une trentaine d'années, parce que ça prend du temps de construire les choses. Mais dernière chose, elle n'est pas toute seule. Donc, il y a la vision chinoise, puis il y a la vision des réalités. Et de ce point de vue-là, il faut faire très attention au fait qu'entre le wishful thinking de Pékin et puis les réticences des uns et des autres, on a en réalité une sorte de phénomène de contrepoids, de négociation en permanence. Alors, sur des petits pays comme le Sri Lanka, la Chine peut imposer ses volontés, c'est très clair, c'est ce qui s'est passé aussi avec le Pakistan, mais les autres acteurs, c'est pas des petits acteurs, la Russie, l'Inde, etc. Et donc, on est plutôt dans une phase d'observation par rapport à ce plan Marshall de la Chine et de ses alliés, de ce qui se passe, ce qui se met en œuvre. Et je crois qu'il faut faire preuve d'une très grande modération.
Alors, beaucoup de choses par rapport à ce que vous venez de dire, Jean-Joseph Boileau, que l'on développera, les réticences, la comparaison avec le plan Marshall sur lequel l'Amérique a bâti la reconstruction de l'Europe post-guerre. Alain Fréchon, quel poids accorder à l'histoire, finalement, dans ce projet ?
Eh bien, il faut regarder le mouvement de ce projet, le mouvement qu'il représente. Ce projet représente quelque chose de nouveau, une manière d'expansionnisme chinois, d'expansion de l'influence chinoise à l'extérieur de ses frontières. La Chine est un pays qui n'a pas d'alliance institutionnelle. Elle fait partie de certaines alliances économiques, mais elle n'a pas d'alliance politique. C'est un pays sans alliance. Et donc là, eh bien, on voit qu'elle se lance pour projeter son influence économique. Bien sûr qu'il y a un besoin d'investissement, bien sûr qu'il y a des raisons économiques. Oui, la Chine a des surproductions, de surcapacité de production de ciment, d'acier, etc. à écouler. Oui, elle doit sécuriser ses marchés, notamment énergétiques, etc. Mais au fond, tout ça, ça donne quoi ? C'est pas seulement un mouvement d'investissement. C'est un mouvement de l'influence chinoise à l'étranger, pas seulement vers l'Asie centrale, vers l'Afrique, vers la Méditerranée, qu'il s'agisse du port du Pirée ou du port de Haïfa en Israël, etc. Et donc la Chine observe pendant longtemps une certaine timidité sur la scène internationale. C'est le conseil que donne le patron de la Chine au début de l'ouverture économique, entre 1976 et 1980, Deng Xiaoping dit sur la scène internationale, modestie, profil bas. Nous ne nous manifesterons sur cette scène que quand nous aurons réussi sur le plan économique intérieur. arrive Xi Jinping, 2012-2013, président, chef de l'État et patron du Parti communiste chinois. Il dit « Nous sommes suffisamment forts. Il est temps maintenant d'avoir une influence politique et stratégique qui corresponde à notre poids économique sur la scène mondiale. » C'est ça aussi que représente ce projet mal nommé, dit justement Jean-Joseph, des routes de la soie. C'est aussi ça, c'est l'expansion de l'influence chinoise dans le monde.
Donc il s'agit bien, et c'est important de le souligner, d'influence politique et stratégique. Emmanuel Hage.
Je pense qu'on peut pas dissocier l'économique du stratégique. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de réticences ou de craintes, tout simplement, parce que les gens ne voient que l'asymétrie économique. Et il y a une réelle asymétrie économique dans le projet de la BRI. Si vous prenez les pays d'Asie centrale, les pays d'Afrique, les pays d'Asie du Sud-Est, ils ont beaucoup plus besoin de la Chine, d'un point de vue économique, que la Chine a besoin d'eux. Et donc, vous avez une asymétrie économique. Mais d'un autre côté, vous avez une Chine, et comme le disait Alain, qui, elle, est en train de chercher à acquérir et à consolider son capital politique sur la scène internationale. Et donc, en fait, c'est ce double jeu d'asymétrie qui permet de comprendre que ce projet, c'est pas un projet qu'économique, c'est un projet bien évidemment stratégique, et vous avez de nombreux investissements, et notamment vous prenez le port de Djibouti, pour ne prendre que lui, vous allez avoir à la fois une base militaire, mais vous avez aussi une infrastructure portuaire qui est réalisé pour un objectif économique. Et donc, si vous voulez, encore une fois, il faut prendre cette Chine, c'est la Chine du temps long, et il faut replacer ce projet BRI dans toutes les phases d'internationalisation qu'on a pu observer sur la Chine. Hein, Alain le disait, à partir de 79, les zones économiques spéciales, vous avez l'accession de la Chine à l'OMC en 2001, vous avez les politiques que l'on a appelées le « going out », c'est-à-dire « aller ». Vous internationalisez, c'était le message qui était envoyé aux entreprises. Après, on leur a dit ramener de la technologie, ça s'appelait le bringing. Et là, vous avez une sorte de quatrième étage de la fusée de la Chine d'un point de vue économique international, c'est le projet BRI. Et ce projet BRI, il nous raconte une histoire. Et ce monde a besoin d'histoire. Et la Chine, à l'heure actuelle, c'est peut-être le seul pays qui arrive à compter de manière internationale une histoire au monde. C'est pour ça que la dimension économique, elle est aussi stratégique et politique.
Angélique Pall.
Je voudrais rebondir juste sur ce qui vient d'être dit, en donnant juste un exemple sur la façon dont les Européens reçoivent ce projet chinois. En prenant l'exemple de l'entreprise State Grid. Donc State Grid, c'est le gestionnaire du réseau d'électricité chinois. Et en Europe, il se passe un peu le même phénomène avec State Grid que ce qu'on peut avoir avec notamment l'entreprise Gazprom. C'est-à-dire que dans les deux cas, on a une entreprise nationale qui est un géant intérieur, qui a une très forte importance pour la population locale et qui est en partie gérée ou en partie aux mains de l'État, l'État national. Et cette entreprise, elle a besoin pour assurer ses approvisionnements financiers et pour assurer la stabilité de ses investissements d'aller à l'extérieur. C'est le cas de Gazprom qui n'assure en fait ses marges que par les exportations auprès de l'Union européenne. Et c'est le cas aussi de State Grid, dont l'État chinois contrôle une partie des investissements à l'intérieur de la Chine et qui donc est en train de sortir du pays et d'investir notamment dans des actifs rentables, c'est-à-dire les réseaux européens. Et la population européenne et les médias européens réagissent en disant « Attention, State Grid est en train d'investir l'Union européenne de l'énergie ». Et il y a une réaction assez forte vis-à-vis de cet acteur-là, qui correspond en fait à une inquiétude européenne vis-à-vis d'une intervention chinoise dans les dynamiques énergétiques européennes, qui n'est pas réciproque, puisque la Chine est fermée à ce type d'investissement européen sur son sol.
Vous écoutez RFI Géopolitique.
Alors, l'inquiétude européenne, elle dépasse largement l'aspect uniquement énergie, c'est très clair. Si on devait décrire rapidement la situation, bon d'abord, il a échappé à personne que cette politique du carnet de chèque de la Chine, certains pays européens, notamment d'Europe orientale et centrale, ils sont particulièrement sensibles. Et l'Europe aujourd'hui, Jean-Joseph Boileau et Alain Frachon, se trouve finalement très divisée.
Oui, il ne faudrait pas se raconter d'histoire. C'est bien que les Chinois cherchent à nous raconter une histoire, mais je n'ai pas l'impression quand même que nous, on doit tomber dans ce panneau. Et surtout, ce qu'on appelle la route de la soie, les routes de la soie, historiquement, c'est la 26e qui est en train de se construire. Donc, il y en a eu 25 avant. Il y a eu donc des tas d'histoires. Et je dis souvent que la plus importante période de prospérité de cette route de la soie, c'est sous l'empire de Genghis Khan. C'est sans les Chinois, parce qu'ils vont conquérir quand même Pékin, Chang'an, Xi'an aujourd'hui. Et ce qui nous intéresse, c'est de regarder l'ensemble de ces acteurs. Comme dit un proverbe afghan, vous savez, qui est très beau, c'est « qui a des éléphants doit avoir des grandes portes ». Les Afghans témoignent de ce que c'est que l'Asie centrale, sa vision du monde. Et donc, on a trois groupes de pays, en réalité, dans la réaction à cette vision chinoise. On a ceux qui sont, donc si je prends les critères économiques et politiques, puisque les deux sont inséparables. On a un tout petit groupe de pays, et notamment c'est le Pakistan qui est en plein milieu, où c'est oui, c'est-à-dire oui politiquement et oui économiquement. Mais c'est le seul. Ensuite, on a un groupe de pays qui...
Alors le Pakistan, il y a des réticences très fortes, des inquiétudes au Pakistan.
Eh ben oui, parce que le modèle chinois du fameuse route de la soie, du win-win, se traduit en fait en Pakistan. Quand vous y allez, on le voit bien, à la fois par des actifs tangibles, le métro de Lahore, des centrales électriques, etc. Mais une crise de la dette absolument terrible. Le Pakistan sera dans l'incapacité de repayer la dette, comme vis-à-vis d'un certain nombre de pays africains. On voit bien qu'aujourd'hui, ils sont dans l'incapacité de le faire. Or, ça se traduit par quoi ? D'un surendettement qui oblige ces pays à céder, à aliéner des actifs. Vous comprenez bien que sur le plan politique, c'est pas génial.
D'où les inquiétudes aussi est tout à fait fondée du Fonds monétaire international.
Dont le Fonds monétaire international, et pas seulement parce qu'il est anti-chinois sur le fond, je crois que sur le fond il l'est, mais enfin, parce qu'il voit bien que ça ne tient pas la route, ce modèle. Et ça suppose que la Chine accepte de mettre 3000 milliards sur la table et de récupérer une petite mise de fonds sur le fond. Et pour elle, comme les pays sont pas capables de rembourser, ce qu'elle voudrait, c'est des actifs. Mais attendez, les autres, ils sont là, ils sont pas prêts à céder des actifs. Donc il y a un deuxième groupe de pays qui dit oui au projet économique, à la condition que ça soit transparent, etc., mais non sur le plan politique. C'est le cas de l'Inde. Et l'Inde, c'est pas un petit, vous voyez, c'est un éléphant, l'Inde. L'Inde construit une sorte, non pas de contre-route de la soie, mais un contrepoint à la route de la soie, avec ceux qui disent non, non, non politiquement, non économiquement, c'est-à-dire les États-Unis, le Japon, et vous avez vu qu'il y a un ensemble de pays comme la Malaisie, par exemple, qui sont, et même en Europe, c'est pour ça que vous avez raison d'insister sur la division en ce moment des Européens sur ce projet-là, qui commencent à se dire que cette façon un peu de dérouler la puissance chinoise, ça va se traduire par des déséquilibres économiques et politiques. Et donc, c'est très bien qu'ils aient développé un plan. Je crois que le monde avait besoin de milliards de dollars dans les infrastructures. Ça ne veut pas dire pour autant que les acteurs qui sont là, donc il y a une cinquantaine de pays, les 77 dont vous parlez, fassent une union. C'est comme l'Union européenne, on dit qu'on est 28, mais c'est un effet d'agglomération. L'Union européenne, vous avez vu dans quel état elle est. Autour de la route de la soie, il y a des logiques d'acteurs qui se traduisent par des difficultés en réalité pour Pékin à les réunir sous son toit, ce qu'on appelle Xinjiang dans la vision chinoise. La Chine voudrait qu'il soit sous son toit, et bien les autres ne veulent pas, pour l'essentiel.
Alain Frachon.
Inévitablement, les Chinois vont se confronter à des cultures étrangères, vont se confronter à d'autres régimes politiques, vont se confronter à des situations conflictuelles, des situations de guerre ou de conflit. Il n'y a pas d'expansion comme ça, purement économique, qui serait comme ça. Bon, on met toutes les autres considérations à l'extérieur. Il n'y a pas de rebelles balouchtes au Pakistan. Il n'y a pas de problème avec les talibans en Afghanistan, etc. Il n'y a pas de Rohingyas en Birmanie. Fatalement, la Chine va être confrontée à la scène internationale qu'elle est aujourd'hui. Et elle fait peur, par sa masse, par sa puissance économique, par la réussite qu'elle a eue ces dernières années. Vous avez plusieurs exemples. Il y a moins de deux mois, le premier ministre malaisien, Mohamed Mahathir, 92 ans, personnage qui a joué un rôle clé dans la crise asiatique en 1997, va à Pékin. Et il dit aux Chinois, écoutez, c'est très bien vos projets, des robes de la soie, mais nous, on peut pas payer. Nous, ça correspond à un piège de la dette. Donc, il faut qu'on reprenne tous les contrats, parce qu'on n'est pas d'accord avec les contrats. Et faites attention. Et il dit ça à Pékin. Parce que ça peut ressembler, votre projet, à une vision néocoloniale, à une nouvelle forme de colonialisme. Naturellement, les Chinois s'attendaient à ces réticences, ils s'attendaient à cela. Mais donc, si vous voulez, ça ne se fera pas sans heurts, ça ne se fera pas sans conflits. Et prenez l'exemple de l'Union européenne. Jusqu'à il y a, je dirais encore, à peu près un an et demi ou deux ans, il y a très peu de réticences aux investissements chinois dans l'Union européenne, y compris dans des secteurs clés, stratégiques, comme disait Angélique tout à l'heure, il y a très peu de réticence. Tout le monde accueille volontiers les investissements chinois, sans qu'on contrôle trop le secteur des nouvelles technologies, les créneaux où ils viennent prendre des prises de participation. Depuis deux ans, ça change. Depuis deux ans, il y a une peur. Et
qui s'est rangé derrière Trump sur la question des transferts de technologie, qui s'est rangé derrière Trump sur la question de la propriété intellectuelle, eh bien c'est l'Union européenne.
On développera dans la deuxième partie de l'émission géopolitique sur les routes de la soie. Nous retrouvons nos invités Angélique Pahl, Jean-Joseph Boileau, Emmanuel H et Alain Frachon.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique depuis les géopolitiques de Nantes, co-organisées par l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, regard sur les nouvelles routes de la soie, le projet chinois de One Belt, One Road à Polibri pour Belt and Road Initiative. Nous retrouvons nos invités, Angélique Pahl, chercheuse énergie et matières premières à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, Jean-Joseph Boileau, spécialiste de l'Asie, conseiller pays émergents au club CEPI, chercheur associé à l'IRIS, Emmanuel H, professeur et directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste en prospective, et Alain Frachon, éditorialiste de politique étrangère au journal Le Monde. On a terminé la première partie de l'émission sur les fortes inquiétudes que le bris pouvait générer de par le monde. Alain Frachon évoquait le cas de la Malaisie qui a fait une certaine forme de rétropédalage. Beaucoup d'inquiétudes aussi, on l'a un peu développé sur le plan énergétique avec vous, Angélique Pahl, en Union européenne.
Oui, alors en fait, cet acteur dont on parlait tout à l'heure, State Grid, qui est quand même aujourd'hui la deuxième entreprise mondiale dans le classement Forbes, a racheté ces dernières années un certain nombre d'actifs dans les réseaux européens. Au Portugal, en Grèce, en Italie, à Malte, une tentative avortée de prise de contrôle de l'un des opérateurs allemands qui a été, mise en échec par le gouvernement Merkel. Et l'Union européenne s'interroge en fait sur la stratégie à adopter vis-à-vis de ces investissements chinois. Est-ce qu'il faut une réaction européenne ? Donc certains députés européens plaident pour que certes, les infrastructures énergétiques notamment et d'autres infrastructures critiques soient soumises à un regard de l'Union européenne sur qui en prend le contrôle, notamment les députés portugais, qui sont en train de se faire racheter leur réseau électrique national par donc le dit State Grid. Et dans le même temps, si on regarde du côté chinois, State Grid a besoin de s'exporter à l'international pour tester ses normes, pour apprendre aussi des réseaux européens. La plaque électrique européenne, c'est la plus grande plaque intégrée au monde. C'est là qu'on teste en grande partie la question de l'intégration des énergies renouvelables, par exemple, gros sujet en Chine, puisque 15% de la production renouvelable variable, donc éolien et solaire chinoise, n'atteint jamais son consommateur puisque le réseau ne peut pas la prendre en charge. Et donc la Chine a besoin aussi, et ça explique en partie cet intérêt chinois pour les actifs européens dans ce secteur, a besoin de faire rentrer de la technologie, du savoir-faire, de la gouvernance dans son pays. D'où cette dialectique en fait entre cette perception d'une invasion chinoise et en même temps cet argument relativement rationnel qui consiste à dire qu'on va aussi chercher ailleurs ce dont on a besoin pour développer les infrastructures internes à la Chine.
Jean-Joseph Boileau, quelle est la perception en Afrique de ce projet chinois ?
Alors, c'est intéressant parce que la plupart du temps, quand on dit d'un loup, c'est le réseau continental. Et on parle très peu de la voie maritime, et en particulier de la voie maritime vers l'Afrique. Alors, au dernier sommet Afrique-Chine, président Xi Jinping a sorti effectivement pour la première fois, en disant l'Afrique est bien sûr dans cette ceinture. Pourquoi la Chine l'a fait ? Parce que ça commence à lui coûter cher, tous ces projets, quand même. C'est pas très rentable. Et il y a des tas de pays qui sont en situation, donc on l'a vu maintenant, de ne pas pouvoir repayer les prêts de Pékin, etc. Et ça lui coûte cher. Donc elle a décidé de rationaliser tout son système financier, organisationnel, autour de la route de la soie. Et vous faites des économies d'échelle. L'Afrique réagit comment ? Elle est très contente de voir arriver, évidemment, des opérateurs qui vont construire des routes, des canaux, etc. Mais là, pour l'essentiel, il n'y a pas du tout la problématique des grids, des réseaux de pipelines, etc. sur l'Afrique. Par contre, il y a les gisements. Et donc là, ce qui compte pour l'Afrique, c'est les gisements, les ports et les voies d'accès aux ports, c'est-à-dire les routes et les voies de chemin de fer. Dans un premier temps, l'Afrique très contente. Et on voit très bien que là, depuis maintenant 2-3 ans, pas seulement la société civile, il y a tout un ensemble aussi de chefs d'État, de responsables, qui raisonnent comme les Européens et qui se posent la question suivante. Nous, ce qu'on a besoin, c'est de développer l'intérieur de l'Afrique. Si c'est pour retrouver la carte, finalement, de l'Afrique du 19e siècle, où c'était tout simplement pour la traite des esclaves et de l'ivoire, le développement des ports, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Donc, il y a désormais aussi en Afrique une réflexion sur quels sont les besoins de l'Afrique, quels sont les projets chinois, où est-ce que ça colle, où est-ce que ça colle pas. Et j'ai vu, comme pour la Malaisie, en Tanzanie, par exemple, qui est pourtant très dépendante de Pékin, l'annulation de deux projets d'infrastructures, l'un parce que dans la réalité c'était beaucoup trop cher, qu'il y avait eu des cas de corruption. C'est vrai que là, l'Afrique aussi est en train d'utiliser cet argument pour faire annuler des projets. Et parce que ça ne contentait pas, évidemment, les Tanzaniens, parce que ce projet ferroviaire conduit en réalité à un port stratégique pour les Chinois. Ça serait leur troisième port sur la côte Est. Ça fait beaucoup quand même. Dont la catastrophe écologique annoncée a été dénoncée un peu partout en Afrique de l'Est et notamment en Tanzanie. Donc, l'Afrique est plutôt dans une position où, sur le plan économique, ça nous intéresse. Sur le plan politique, bon... Et puis, petit à petit, c'est en train d'évoluer sur le non, non économique, non politique. Et donc, les Chinois sont obligés de commencer à renégocier différemment. Et s'ils ont mis 60 milliards de plus sur la table, c'est bien ça qui s'est passé quand même au sommet de Pékin il y a un mois et demi, là, le FOCAC, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils sont obligés de mettre de plus en plus pour acheter de plus en plus des gens réticents. Voilà un peu ma perception de la façon dont ça se passe en Afrique.
Emmanuel Hache.
Certains même emploient désormais en fait le terme de consensus de Pékin, en référence au consensus de Washington. Vous voyez, des politiques d'ajustement structurel des années 80. Donc on n'est pas que dans le symbolique. Et ce qu'il faut voir, c'est il y a une logique très économique derrière tout ça. Lorsque vous reprenez les motivations économiques de la BRI d'un point de vue chinois, on a certes la construction d'infrastructures, donc qui permet j'allais dire de réduire les coûts, les distances, etc., etc. Mais vous avez aussi un objectif interne de monter en gamme des entreprises chinoises. Et dans cette montée en gamme, comment l'entreprise chinoise le réalise-t-elle ? Ben, le réalise en faisant des gains d'apprentissage, en faisant des économies d'échelle, tout simplement en optimisant les chaînes de production. Et en face, ben, des entreprises locales. Qu'est-ce qui leur arrive ? Elles se retrouvent face à des entreprises qui sont de plus en plus optimisées, qui ne peuvent donc pas négocier les contrats et donc qui se retrouvent quelque part à la peine face à la compétitivité des entreprises chinoises. Et donc, bah, comment dire, les réticences dans certaines parties d'Afrique, mais je pense qu'il n'y a pas qu'en Afrique, il y en a aussi en Asie centrale, c'est exactement la même chose, où on essaie de renégocier les contrats, parce que quelque part, on a le sentiment que la Chine, elle est peut-être économiquement en train de renfermer des pays dans des spécialisations qui sont, j'allais dire, très passéistes, c'est-à-dire les matières premières sans monter en gamme, quoique les matières premières sont très importantes à l'heure actuelle, mais essayer de reprimariser en fait certaines économies. Et ça, en termes de développement, j'allais dire, ça va à l'encontre de tous les préceptes économiques et puis de toutes les politiques que l'on essaye de mener depuis une trentaine d'années en Afrique et ailleurs.
Angélique Pal.
Je nuancerais peut-être un petit peu cette vision-là en parlant de l'investissement de la Chine dans l'électrification africaine, dont on sait qu'elle va être un des grands enjeux du 21e siècle. La Chine investit massivement dans l'Afrique subsaharienne et est responsable d'à peu près 30% de la croissance des unités de production. Elle investit aussi dans les réseaux, des lignes notamment par exemple entre l'Éthiopie et le Kenya, dans les réseaux locaux en Angola, en Guinée équatoriale, et même dans ce qu'on appelle le off-grid, c'est-à-dire des éléments techniques qui vous permettent, par exemple, via des panneaux solaires portatifs, de ne pas avoir à vous connecter au réseau et qui marchent, par exemple, dans des pays comme le Rwanda ou dans les aux Comores. Donc, elle essaie quand même, sur ce plan-là, de développer à la fois un accès à l'électrification, un marché, et on n'est pas dans une logique de renfermement de pays dans des spécialisations, on est plutôt dans une logique de développement global.
Alors, parmi les régions où ce projet est assez absent, Alain Frachon, c'est le Moyen-Orient.
Pas sûr, non. Sans prendre trop de risques, on peut même parier que la Chine va devenir un acteur important au Moyen-Orient. Elle l'est déjà en Iran, elle est après tout le premier importateur de pétrole iranien, et je pense peut-être même de gaz iranien. Elle continue à investir en Iran, et elle continuera à investir en Iran, en dépit des sanctions américaines, etc. C'est l'endroit de la région où il y a le plus d'entrepreneurs chinois et d'investisseurs chinois. C'est à Téhéran. Donc déjà, si vous voulez, il ne faut pas imaginer que la Chine n'est pas présente et ne joue pas un rôle au Moyen-Orient. Ensuite, je dirais la même chose pour l'Arabie Saoudite. La Chine est le premier importateur de pétrole saoudien. Mais s'il y a bien un pays ou une superpuissance qui a des intérêts stratégiques au Moyen-Orient, supérieurs à ceux de l'Europe et évidemment très supérieurs à ceux des États-Unis, c'est bien la Chine.
et le Japon aussi incidemment, mais c'est bien la Chine. Prenez une situation comme celle de la Syrie, par exemple. Imaginez ce qui va se passer dans les 15 ou 20 ans qui viennent, qui seront des phases de reconstruction petit à petit d'un État, voire d'un État-nation, c'est moins sûr, en Syrie. Eh bien, qui a la capacité en ce moment de construire, d'investir en Syrie ? Les Européens, les Américains et les Chinois. Les Russes ne l'ont pas. Les pays arabes ne s'y risqueront pas, puisque c'est Bachar al-Assad, et considère que Bachar al-Assad est dans le camp iranien. Donc vous n'allez pas avoir d'investissement saoudien, koweïtien, etc., dans la reconstruction de la Syrie. Mais qui a la capacité ? Eh bien, les entreprises chinoises. Est-ce qu'elles prendront le risque ? Je ne sais pas. Si vous voulez, elles prennent la mesure des risques géopolitiques de leur expansion économique. Et il y en a. Cette question des routes de la soie, ce n'est pas un jeu à somme nulle. Angélique a raison. Pourquoi l'Afrique décolle aussi ? C'est parce que sur l'ensemble des infrastructures africaines qui ont été mises en place ces 15 dernières années, eh bien, elles sont chinoises. Si l'Afrique s'est couverte, la moitié. Donc, c'est pas un jeu à somme nulle, si vous voulez. Mais ce qu'il faut retenir, c'est le Moyen-Orient est un bon exemple. C'est que cette politique d'investissement à long terme, que les Chinois mèneront à long terme. Ils vont pas arrêter ce projet. C'est pas je gagne aujourd'hui, je perds demain. Non, c'est un projet à long terme. Ils respectent le long terme, les Chinois. Cette politique va amener la Chine à être de plus en plus un acteur majeur sur la scène internationale. C'est ça que ça veut dire aussi, les routes de la soie.
Et aidé en cela par les États-Unis, dont la politique finalement est assez schizophrène. On voit d'une part Donald Trump déclarer la guerre commerciale à la Chine, et puis avoir fait ce qu'il avait dit en campagne qu'il ferait, c'est-à-dire se retirer du traité transpacifique. Et puis aujourd'hui, les sanctions contre l'Iran qui vont encore trouver un rythme supérieur début novembre. Et tout ça, ce sont des boulevards offerts à la Chine, Jean-Joseph Boileau.
Oui, parce qu'on a bien, effectivement, l'opposition entre deux grands modèles. Le modèle d'une vision de l'économie mondiale néolibérale, et c'est celle qui est de facto portée par les États-Unis, etc. Donc, et puis, vous avez une vision, pour ça qu'on reprend l'idée du le concept de plan Marshall, qui est celle d'une vision structurelle, de long terme, qui s'intéresse à l'économie réelle et pas aux casinos financiers. Donc c'est ça l'opposition entre Trump et Xi Jinping, me semble-t-il, aujourd'hui. Je voulais revenir juste sur le Moyen-Orient. D'abord, pour bien rappeler aux auditeurs que l'histoire de la route de la soie, c'est une histoire donc de 2500 ans, et que le Moyen-Orient en a toujours été un peu le centre, notamment pour ce qui est de l'Iran, de la Mésopotamie, que les grands ports commerciaux qui transitaient la soie de Chine, c'était pas les Chinois qui l'exportaient, c'était les peuples qui sont des grands commerçants d'Asie centrale avec leurs chameaux, etc. Et que ça allait vers un peu l'Europe, mais surtout le bassin qui consommait à l'époque tout cela et jusqu'à l'Égypte. Donc ils retrouvent leur place naturelle. Et quand Alain dit que par exemple l'Arabie saoudite, eh bien son grand client maintenant pour le pétrole, c'est la Chine. Et d'ailleurs ça nous ramène à cette affaire des Rohingyas, qui est que ils ont pas de chance sur la route du pipeline qui va transiter le pétrole d'Arabie Saoudite vers Kunming, le sud de la Chine. Donc ça montre d'ailleurs aussi tous les problèmes qui vont se poser et qui ont toujours été, c'est très intéressant, pendant 25 siècles, qui ont toujours marqué la route de la soie. Mmh. Les guerres, les barbares, les Chinois les appelaient d'ailleurs les barbares, etc. Et dans l'histoire, les Chinois ont dû construire leur forteresse, n'est-ce pas, leur grande muraille de Chine pour échapper à ces barbares. Et puis une dernière chose, c'est pas parce que les Chinois nous vendent cette histoire, et Dan et Lu, ils oublient de mettre entre parenthèses, parce que ce que tout le monde lit, c'est une puissance. Idan, ça veut dire une ceinture, Ilou, c'est la route, et les Chinois pensent une puissance, la puissance chinoise. Et tout le monde ne voit pas Idan Ilou, mais voit la puissance chinoise et cherche à s'en protéger. En réalité, la vision chinoise, si vous regardez, non pas ce qu'ils disent, mais ce qu'ils font, c'est la Terre. Ils ont une vision planétaire. Leur grande ceinture, c'est pas du tout la ceinture des matières premières. Leur grande ceinture, c'est la ceinture spatiale. La Chine est en train
avec
de constituer
qui était
une ceinture spatiale. Et puis, c'est regardez quand en Amérique latine, etc. Ils sont extrêmement actifs, n'est-ce pas, dans ces zones-là. Eh bien, c'est la ceinture par rapport à l'empire du milieu. Ils vont rester l'empire du milieu, c'est-à-dire la Chine est au milieu de son empire, mais ils n'ont pas la capacité d'être l'empire du milieu du monde du 21e siècle. Et donc leur ceinture à eux, c'est pour se protéger dans la perspective, et ils ont une vision de long terme hein, tout à fait raison, qui est « je vais vieillir » et la Chine va retomber dans les années 40-50, c'est évident. Et donc, ils se construisent, si vous voulez, à l'échelle planétaire, une protection, une ceinture de protection pour demain ne pas devoir céder aux Américains qui, eux, sont sur des phases encore dynamiques, l'air de rien.
Alors, pour terminer, finalement... pour essayer de comprendre et décrypter au mieux ce projet chinois, c'est une bonne ou une mauvaise chose pour le monde ? Qui souhaite répondre ?
Très bonne chose.
Emmanuel Hage.
C'est une très bonne chose parce que encore une fois, c'est un projet qui nous permet de regarder devant. Et lorsqu'on a un pays qui nous permet de regarder devant et qui projette une histoire, on doit la regarder et on doit bien évidemment être transparent, on doit regarder les choses avec calme, mais il faut la regarder et c'est une très bonne chose.
Être transparent, c'est un peu un reproche qui est fait à la Chine, manque de transparence.
Oui, non, mais vertu en vous deux.
Angélique Pal.
Je dirais que la Chine se pose, disons, les bonnes questions avec ce projet. Je ne vais pas nécessairement dire est-ce qu'il est bien ou mauvais. Mais par exemple, si on regarde les questions environnementales, notamment, la Chine a besoin de se poser la question à son échelle, qui est la même que celle que doit se poser le monde, disons, à une échelle plus globale, d'arriver à gérer développement et environnement. Et en fait, avec ce projet des routes de la soie, elle le fait en partie. Alors, pas forcément très bien, pas forcément toujours partout de la meilleure façon, mais au moins, elle pose la question et elle la met sur la table.
Alain Frachon.
Ben, c'est une très bonne chose, Marie-France, ça nous permet de faire une émission avec vous.
Ce
qui est une excellente chose. Écoutez, c'est le grand mouvement du monde, voilà. Ça n'a pas à être connoté positivement ou négativement, si vous voulez. C'est comme ça. C'est le mouvement du monde, c'est la dynamique du monde. Et ne serait-ce qu'à cause de ça, eh bien, il fallait en parler et il faut prendre conscience du poids de la Chine dans les questions stratégiques mondiales.
Jean-Joseph Boileau.
Très bonne chose, mais parce qu'un homme averti en vaut deux. À partir du moment où on connaît mieux ses besoins de la Chine, parce que c'est elle qui fondamentalement a besoin des routes de la soie, quand même, aujourd'hui, à cause de ses surcapacités, à cause de cette fermeture de la fenêtre d'opportunité, ça nous permet, nous, de regarder avec équilibre ce que, on va pas cracher là-dessus, c'est 3000 milliards de dollars prêts à s'investir dans les infrastructures du 21e siècle, et il faut simplement trouver l'équilibre, et donc le mode partenariat. Moi, je doute pas que nous soyons capables, avec la Chine, à la condition, effectivement, de ne pas être des imbéciles, et donc l'Europe, ça posait problème jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Les accords de l'OMC de 2001, c'est scandaleux, il faut le dire. Ça a été des accords de dupes. La Chine n'a jamais mis en œuvre ses transitions et ses réformes, mais il faut le dire. Donc Trump, on peut lui taper dessus, mais là aussi, est-ce que c'est une bonne chose ? C'est une bonne chose que quelqu'un dise tout haut ce que tout le monde pense tout bas.
Alors, juste, et pour aller un tout petit peu plus loin dans cette conclusion, quant à savoir ce que le monde, l'attitude que le monde devrait avoir par rapport à ce bris, les exigences ou non en matière de droits de l'homme, en matière d'environnement, est-ce que il n'y a pas quelque chose
à chaque fois
à l'infraction.
Regardez, si vous voulez, derrière cette question des investissements chinois à l'étranger, il y a la question des normes environnementale, sanitaire, technique, sociale, etc. Et de ce point de vue, Obama avait raison quand il a proposé ces deux grands traités de libéralisation commerciale, l'un avec l'Europe et l'autre avec la Chine, car il ne portait pas tant sur les droits de douane, puisqu'il n'y en a presque plus. Il portait sur les normes. Si les États-Unis et les Européens s'étaient unis, ils auraient pu imposer des normes environnementales. Ils dominaient à ce moment-là le champ des normes, cette question des normes, et ils auraient pu imposer leurs normes environnementales, sociales, techniques, sanitaires et de sécurité au reste du monde. Ce n'est pas le cas, et donc il faut le dire. Il y a derrière aussi, et ça fait partie du projet des routes de la soie, il y a cette question de la bataille des normes.
Emmanuel Hage, très rapidement.
Oui, très rapidement. Vous pouvez voir toute la capacité d'anticipation de la Chine. On est passé de la BRI à la Green Belt and Road depuis quelques temps. C'est-à-dire qu'on va promouvoir un développement environnemental, écologique, à travers, en fait, cette BRI. On parle de Green BRI maintenant.
C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Emmanuel H. Je rappelle que vous êtes professeur et directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste en prospective. Merci aussi à Angélique Pall, chercheuse énergie et matières premières à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM. Jean-Joseph Boileau, spécialiste de l'Asie, conseiller pays émergents au club CEPI, chercheur associé à l'IRIS. Et Alain Frachon, éditorialiste de politique étrangère au journal Le Monde. Géopolitique était signé Marie-France Chatin et Médard Chablaoui à Nantes, Véronique Durand et Nathalie Laporte à Paris. Samedi prochain, nous parlerons du Brésil, à la veille de l'élection présidentielle.